On a du temps pour des questions un petit peu.
Oui.
J'ai une question.
Oui.
Avec votre description du processus religieux et votre explication de ce que c'est que le désir d'être.
Je fais très vite à la fin, mais je suis un peu confus.
Dieu peut-il exister?
Alors, ce que j'ai dit est complètement distinct de l'ordre de la croyance au sens de la foi. Pas de la croyance de la foi, parce que le mot croyance est un peu ambigu, c'est quand je dis je crois en, c'est très exactement le contraire que lorsque je dis je crois que, puisque quand je dis je crois en, ça veut dire que j'adhère sans réfléchir. Je crois absolument. Quand je dis je crois que, ça veut dire exactement le contraire, c'est que je suis patient. Donc je préfère dire la foi qui veut dire confiance, fidèle. Donc est-ce que c'est incompatible avec la foi en une transcendance? Pas du tout. C'est autre chose. Je dirais même que en ce qui me concerne, je suis croyant. Le côté croit en, puisque je pense qu'il est, mais ça c'est un autre sujet. Je pense que notre le monde tel qu'il existe de façon phénoménale et mécaniquement n'est pas compatible avec lui-même. Et ça serait un long débat. Il n'est pas compatible avec lui-même. C'était justement ce que disait déjà Emmanuel Kant dans un chapitre qui s'intitule sur la foi rationnelle. Non pas qu'il veut dire qu'on a foi dans la rationalité, mais qu'il est rationnel d'avoir la foi. Et voilà, montre que c'est qu'en fait croire que le monde n'est que mécanique et causal, c'est une superstition. Pour Kant comme pour moi, d'ailleurs. C'est une superstition parce que ça serait supposé que les causes supposent qu'il y a une autre cause et puis qu'il y a des causes et qu'il y a des causes. Et quand on régresse dans la série des causes, comme le montre très bien Kant, on tombe sur des antinomies. On dit, il faudrait qu'il y ait un début de toutes les causes. Et s'il y a un début de toutes les causes, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir une autre cause. Pourtant, on est obligé de penser, si on pense mécaniquement, à une cause qui la produise. Or, c'est pas possible puisqu'on dit que c'est la première. Donc, on est obligé de supposer un autre schéma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de première cause. Donc, s'il n'y a pas de première cause, ça veut dire que le temps est infini. Si le temps est infini, comme vous le savez en maths, quand vous divisez l'infini par deux, ça fait toujours l'infini. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un temps infini qui s'écoule, il y a un temps infini qui s'est écoulé avant que nous advenions. Donc, on n'est jamais advenu. S'il y a un temps infini qui s'est écoulé avant que nous advenions. Pourtant, nous sommes là. Donc, si on réfléchit au monde de façon mécanique, c'est-à-dire dans un système causal, du point de vue même du système causal, c'est ça qui distingue Kant et les autres penseurs, du point de vue même du système causal, il ne peut pas y avoir de système causal. Donc, puisqu'il y a un système causal, du moins phénoménalement, c'est forcément qu'il y a autre chose. Alors là, on peut l'appeler, Kant parle de choses en soi, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, quelles que soient les définitions que vous en avez. Et c'est non seulement pas incompatible avec la foi, c'est quelque chose qui est dans notre ordre. C'est pas, ça entre pas dans ce que j'ai dit, même si ça m'intéresse. Je vais publier avec Dominique Quesada un livre en septembre qui s'appelle « Le manifeste métaphysique », où c'est un plaidoyer pour la métaphysique, c'est-à-dire qu'on ne va pas croire à ce qui nous est donné physiquement, puisque ce qui nous est donné comme ça physiquement, finalement, c'est l'objet d'une croyance, enfin, un dogmatisme de la matière. Croire qu'il n'y a que la matière, qu'il y a, etc. Et ça finit par être un dogmatisme même de la laïcité, on n'en a pas parlé, mais ce genre de choses. Donc pour moi, la métaphysique, c'est sortir des dogmes, y compris du dogme matérialiste. La métaphysique, c'est le véritable esprit critique. Sortir des abstractions qui prétendent être concrètes. Pour chaque fois, relancer le moteur critique, quel qu'il soit. Alors que dans l'esprit commun, quand on pense métaphysique, on pense autre chose. C'est pour vous dire, vraiment, le livre va s'en... Et il y aura une soirée ici... Qui est prévu le 17, qui s'intitulera La nuit métaphysique, où on va discuter de ce genre de choses. Pour dire, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est la métaphysique.
À laquelle nous sommes invités,
bien évidemment. Évidemment. Donc, oui, je pense que c'est pas.
Comment votre thèse est assez proche de la théorie mimétique de René Girard, le désir mimétique.
Il y a des choses qui sont effectivement présentes chez Girard, si ce n'est que Girard ne va pas... La thèse de Girard, c'est... La thèse du désir mimétique, c'est... Le problème de la thèse de Girard, c'est qu'elle est entièrement focalisée sur le christianisme. Parce que, pour lui, l'ultime bouc émissaire, c'est le Christ. C'est le Christ. Donc il participe lui-même à la narration... en quelque sorte chrétienne. On comprend qu'il ait été le philosophe préféré de l'Église pendant longtemps. Mais oui, il y a quelque chose qui est... Alors là, la partie chez René Girard, moi, je prendrais, si je puis dire, c'est la partie, spécifiquement lorsqu'il parle du désir mimétique, C'est-à-dire que nous dit que ce que désirent les humains, lorsque par exemple, lorsqu'un enfant prend une pierre dans la cour d'école, les autres désirent une pierre, mais en fait ils ne désirent pas une pierre, parce qu'ils désirent cette pierre. Donc ils désirent le désir de l'autre. Et donc le fait de désirer le désir de l'autre, c'est désirer, dans une certaine mesure, jouer à sa place, donc être à sa place, ce qui peut entraîner le désir de le tuer. Donc la seule manière de gérer la situation, c'est le bouc émissaire, pour justifier la frustration des autres, un bouc émissaire qui en général est là suffisamment à l'intérieur pour qu'on puisse dire c'est lui qui est responsable, suffisamment extérieur pour qu'on puisse le repérer. C'est toujours la définition du bouc émissaire. Hein. C'est les Juifs c'était ça, les musulmans aujourd'hui sont partis ça, etc. Donc cette partie, je la trouve extrêmement intéressante quoi, chez René Girard. Mais par contre, toute la partie de la théâtralité, elle n'est pas chez René Girard. La partie de la continuité dans la narration, la théâtralité, donc comment fonctionne la mise en scène, et donc ce que j'appelle à proprement parler le désir d'être. Il y a dedans une partie, oui, qui relève effectivement du désir mimétique, et là, oui,
Tu disais sur justement la théâtralité met en scène la personne, la persona, le personnage.
Qui est masque, oui.
Donc l'identité, tu opposais ça à la singularité. Est-ce que tu pourrais éclaircir ce que tu entends par ça? Ce que c'est la singularité?
La singularité, d'ailleurs, quand on parle d'une singularité...
Parce que c'est un terme très...
Ben, quand on parle d'une singularité dans l'espace... Par exemple, on parle d'une singularité spatio-temporelle, en physique. On parle d'une singularité, on dit le Big Bang, c'est une singularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça arrive qu'une fois.
Okay.
Il n'y a pas de cycle. C'est hors cycle. C'est hors cycle. Et ça ne ressemble à rien d'autre qu'à soi.
C'est unique.
Voilà. Donc, quand on pense identité, souvent, on croit que les individus revendiquent, parce qu'ils croient eux-mêmes qu'ils revendiquent ça, qu'ils revendiquent le fait d'être rien d'autre qu'eux-mêmes. En réalité, non. En réalité, le processus d'identité, de construction d'identité, il est plus lié à l'angoisse de n'être rien d'autre qu'eux-mêmes, d'être cette singularité. Donc, finalement, l'identité fonctionne d'abord comme une négation de notre singularité. Parce que notre singularité, c'est quoi? Notre singularité, c'est la précision absolue de notre composition moléculaire qui ne ressemble à aucune autre et qui est hors toute autre narration. Donc qui est en fait solitaire. Notre chair en elle-même, elle est absolument solitaire dans ce qu'elle est en tant que telle. Donc l'identité, c'est immédiatement de la faire participer par des jeux de ressemblance, de regard d'autrui, exactement à ce tu que je construis à l'extérieur de moi, le tu devrait être ceci, devrait être cela, etc. Et à ce moment-là, j'arrive à supporter ma singularité. Grâce à cette mise en scène de l'identité.
Moi, j'avais juste une question du coup, qui m'aurait intéressé, parce qu'en fait, je pensais le titre du séminaire, c'était la cartographie.
Peut-être qu'il faudrait changer le titre.
L'aspect territorial, vous l'avez complètement laissé de côté.
Je peux en parler, l'aspect territorial. Je le traite en partie là-dedans.
D'accord.
Et par exemple, l'aspect territorial, là, dans l'aspect territorial, quand j'ai commencé à parler de capital global, capital économique, là, à partir de qu'est-ce qui se passe dans l'islam et les différentes formes de fondamentalisme au Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe en Asie, comment est-ce qu'il y a des récupérations, des croisements dans cette partie qu'on appelle l'Occident, comment est-ce que ça se mélange, ça s'intensifie à certains endroits, à certains d'autres, pourquoi est-ce que le bouddhisme est plus présent ici que là, etc. Ah oui, j'ai pas eu le temps là. Désolé de traiter.
Vous avez dit, si j'ai bien compris, on est en pilotage automatique.
Sur certains points. Parce qu'on est en pilotage automatique du point de vue de ceux, comment dire, du point de vue de la gouvernance en quelque sorte, de la gouvernance de la religion, même de la gouvernance en général. C'est-à-dire, comme on n'arrive pas à fixer des principes sur lesquels on peut jouer la pièce de théâtre, qui serait une pièce de théâtre solide, qui nous permet véritablement de jouer, c'est-à-dire où on n'adhère pas au sens de l'adhérence, on en rajoute sur l'adhésion, sur l'idéologie. Je vous donne un exemple, juste un exemple. Le débat sur l'identité nationale. L'identité nationale, c'est une mise en scène. Mais comme justement, c'est de moins en moins solide, c'est-à-dire que de moins en moins de gens y croient au sens de l'adhérence, on en rajoute sur l'idéologie, c'est-à-dire sur le débat intellectuel, sur quelque chose auquel on ne croit plus. Et c'est parce qu'on n'y croit plus qu'on en parle. Parce que sinon on n'en parlerait pas, on serait directement dans la confiance, d'ailleurs fidesse. Ça veut dire que j'ai tellement confiance que je n'en parle pas. C'est ce que je disais, j'avais fait un débat à l'époque, j'avais été invité à faire des débats au ministre de l'Identité nationale, je le dis très complètement dingue, qui est ministre de l'Identité nationale, je disais, c'est fascinant qu'il ne serait-ce qu'un ministère de l'Identité nationale, parce que ça veut vraiment dire que rien ne va plus, c'est-à-dire que c'est fini, parce que l'identité nationale, comme toutes les identités, c'est comme ce gaz mortel, quand vous le sentez, c'est déjà fini. C'est déjà terminé. C'est-à-dire que dès que vous parlez d'identité nationale, c'est terminé. Je donnais cet exemple, je crois, l'année dernière, justement, aux étudiants. Je disais, moi, quand j'étais petit, quand j'allais en Italie, c'était un truc vraiment un souvenir très fort. Je sais pas si tu veux, j'arrive en Italie et j'avais le sentiment esthétique de mon appartenance à la France. Et après, je trouvais des caractéristiques logiques que je superposais. Par exemple, quand je rentre en France, la couleur bleue, elle est plus bleue, plus pure en France. Comme sur les panneaux des autoroutes. Les autoroutes, elles sont plus larges, elles sont mieux entretenues, elles sont plus ceci. Après, on trouve des choses qui vont renvoyer l'autre à ce qu'on perçoit comme étant des défauts, même l'odeur, on sent que c'est pas pareil, et puis la manière, l'aménagement du territoire. Et je sentais ça comme un truc d'extrêmement fort, j'arrivais. Aujourd'hui, je vais en Italie, je reviens, ça fait rien. Donc c'est réglé, c'est-à-dire qu'on peut me parler de l'identité nationale pendant des heures, d'autant plus que c'était quand même une fausse manœuvre, parce que sur votre site, sur l'identité nationale, où je suis allé, vous mettez Rousseau, citoyen suisse. Ah, déjà, Voltaire, il a dû fuir, parce que c'était vraiment l'horreur, etc. Montaigne, persécuté, il a dû s'enfermer dans son château, parce que vraiment c'était. Et donc, c'est ça vos modèles de l'identité nationale, qui sont tous des gens qui, soit ont été exclus de l'identité nationale, soit ont concouru à la transformer pour qu'elle ne soit pas exclusive. Alors, il faudrait que vous suiviez le royaume, puisque c'est ça, le théoriquement. Hein. Victor Hugo, l'universalisme, hein. Ben, l'idée de l'Europe d'abord, puis l'universalisme, etc. Donc ça veut dire que la question on voit bien qu'aujourd'hui on est dans des débats qui ne sont pas des débats, qui sont des ébats, c'est-à-dire qu'on s'ébat. On ne sait pas très bien au moins, on ne sait pas très bien. La question des gilets jaunes, pour moi, c'est un problème métaphysique. Pour moi, c'est vraiment un problème métaphysique. C'est pas un problème physique. Il y a un problème physique lié à la fiscale. Mais c'est un problème métaphysique parce que pourquoi est-ce que ça commence fiscalement, la question des gilets jaunes? C'est assez simple, en somme. Quand il y a une révolte fiscale, la révolte fiscale, elle est liée à des individus qui pensent être plus fonctionnés par rapport à l'effort qu'ils fournissent. Donc, ça veut dire que c'est les gens qui se représentent comme étant plus productifs que les autres. Et donc, ils disent, nous, on est productifs, et les autres, ils sont moins productifs, et pourtant, ils ont plus de chance, ils ont plus ceci, ils ont plus cela. C'est un problème métaphysique. Et vous ne pouvez pas régler un problème métaphysique avec des mesures concrètes. D'ailleurs, comme il y a des gens tellement différents qui éprouvent ce même problème métaphysique, mais avec des intérêts objectifs qui sont variables, c'est-à-dire un mélange de petits commerçants et de salariés d'entreprises, voire de petits fonctionnaires, qui sont ensemble. Si vous décidez d'augmenter le revenu minimum, vous allez avoir les petits commerçants qui vont dire « mais c'est pas du tout ce qu'on voulait ». Et si vous baissez les impôts sur justement les petites affaires, les SARL, etc., vous allez avoir les salariés qui disent « attends, c'est dégueulasse, c'est pas du tout ce qu'on voulait non plus ». Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était pas ça la question. La question, elle relève d'autre chose. La question fiscale, c'est quand même la question qui est directement la question de la participation au mythe national. C'est la participation, certes, avec de l'argent, mais c'est la participation.
Et la tenue vestimentaire du gilet jaune fluorescent?
La tenue vestimentaire du gilet jaune fluorescent, je pense que c'est la disponibilité immédiate de la chose. Hein. Et deux, la possibilité, en termes d'identité, d'être identifié immédiatement, parce que tout le monde l'a, donc c'est universel, et donc il n'y en a pas qui ont plus que d'autres. Et comme c'est un mouvement qui cherche à dire ça, c'est génial.
Non, mais c'est moche.
C'est génial, moi, je trouve. C'est moche, mais c'est génial.
Ouais, mais dans ton propos,
ah non, 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 attention. Alors, quand je parle d'esthétique, je ne veux pas dire que c'est beau.
Parce que Marine Le Pen, elle a fait quand même 21 millions d'électeurs, elle est moche.
Ah, c'est difficile à dire. Ça l'a rendue moche au départ, elle était pas si moche. Ah, je pense qu'à force de faire des grimaces à la télévision, ça finit par modifier peut-être. Non, pas, non, ce que je veux dire, c'est que, alors, l'esthétique au sens large, l'esthétique de Marine Le Pen fonctionne. La voix rock, j'ose faire un certain nombre de choses, c'est ça l'esthétique. C'est un tout autre. C'est pas seulement l'esthétique au sens de la beauté immédiate.
Mais Fillon, il a cherché les beaux costumes, les matières nobles.
Mais justement, lui, il voulait être esthétique dans ses costumes, dans etc., etc. Mais il est tombé pour des raisons esthétiques aussi. C'est-à-dire qu'il apparaissait comme un type qui était corrompu. La corruption, c'est une esthétique. Parce que dans une certaine mesure, le fait qu'il ait acheté ses costumes, je vous dis honnêtement, il aurait pu les acheter 200 000 dollars. Si François Pinault, je ne sais pas quoi, lui payait ses costumes à 200 000 dollars, bon, bah, d'un autre côté, il achète ses costumes à 200 000 dollars. Point. Il a des costumes à 200 000 dollars. Maintenant, il apparaissait comme étant corrompu, ça apparaissait comme étant un système, et donc on était vraiment dans une esthétique du pouvoir d'un type qu'on ne pouvait plus tolérer, comme ça. Moi, à l'époque où mon grand-père était député, il était député pendant 30 ans, tout le monde trouvait ça normal et banal de recevoir un 13e, un 14e mois en liquide des mains du caisseur de l'Assemblée nationale. Tout le monde le recevait. Aujourd'hui, si on reçoit 10 centimes, j'imagine qu'immédiatement, c'est scandaleux. Je ne veux pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. La question pour moi n'est pas là. Je veux dire que l'esthétique, c'est-à-dire l'ensemble de l'illusion, c'est-à-dire l'illusion que les humains se jouent à eux-mêmes, a changé, sa structure a changé, les règles du jeu ont changé. Si on n'est pas adapté, bon, ben, lui n'était pas adapté, apparemment, Fillon. Il n'a pas compris que ça avait changé, que ça ne fonctionnait plus.
Est-ce qu'on peut tirer la ficelle et dire que dans certains décorums, on parlait de religion,
oui,
ils sont plus fastueux que d'autres? Est-ce que c'est aussi une volonté de garder la mémoire de...
Bien sûr. Mais je vous donne un exemple. Dans la fonction publique, il y a une des fonctions publiques qui est parmi les plus pauvres et qui est pourtant les plus fastueuses. Elle est pauvre, parce qu'en fait, ce n'est pas le nerf de la guerre, ce n'est pas l'économie. Mais la plus fastueuse, c'est le Quai d'Orsay. Pourquoi? Parce que c'est l'esthétique qui prime. Et pour des raisons historiques, c'est là où il y a le plus de particules. D'individus qui sont encore des diplomates et qui ont des particules parce qu'il y a un rapport à la transmission, à l'image de la France, à l'esthétique, etc. Et un rapport même à l'assiette. Quand au Quai d'Orsay, alors, dans les ambassades dans le monde, il y a une présentation de soi du collectif qu'on appelle la France qui s'effectue à partir d'un certain type de goût qui lui-même... Parce que s'il n'était pas intériorisé et désiré par les autres, ça n'aurait aucun impact. Mais parce que les autres se le représentent comme à la fois inaccessible, parce qu'ils n'y ont pas eu complètement accès, mais en même temps, comme étant magnifique, beau, etc., ça marche. C'est-à-dire qu'au même titre qu'il y a un charisme individuel, c'est la capacité à imposer son scénario, et donc son esthétique à autrui, dans un groupe, il y a un charisme national. On peut dire que la France, son charisme national, pendant des siècles, a fonctionné. Aujourd'hui, il fonctionne moins bien. Donc, ça crée la problématique de l'exception nationale. On a besoin d'expliquer qu'on a une exception quand on ne l'est plus. Pareil que pour l'identité. Mais on garde encore avec le Quai d'Orsay, cette espèce d'esthétique, les assiettes avec en doré marqué République française, les chefs 3 étoiles, tout le truc qui fait tout ce décor.
Je reviens au point de Fatima.
Ah non, mais je ne voudrais pas que vous soyez frustré.
Non, mais les gens sont en train de remplir la remarque.
Parce que la cartographie, elle n'est pas que. Elle est symbolique, hein. Après ça, tu l'as donné, mais juste pour aller sur la question terrestre, effectivement. Si on parle des fondamentalismes.
Ouais.
On voit bien la perte de capital symbolique au Moyen-Orient, avec les échecs qu'ils ont subis, la répétition, la domination occidentale, l'exploitation du pétrole, etc. Est-ce qu'elle existe par exemple aussi aux États-Unis, où il y a également un fondamentalisme, est-ce que c'est vraiment le même jaillissement, la même source qui fait surgir.
Alors, chaque fois, il y a ce qu'on pourrait appeler des strates. Et quand je parle de fondamentalisme, spiritualisme, charismatisme, sont ce que Max Weber appelle des idiotypes. C'est-à-dire des réalités qui ne se retrouvent jamais à l'état pur dans le réel. Mais qui permettent de mesurer le réel par les différents degrés de fondamentalisme, de spiritualisme ou de charismatisme. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une confrérie comme la confrérie des Boutichia au Maroc, par exemple. Ça, je donne cet exemple parce que vous avez une dose de fondamentalisme certaine, retour réactionnaire, etc. Et puis, comme c'est soufi, vous avez le côté néo-soufi, presque, avec un discours qui est presque néo-yogique, bouddhiste, etc. Qui est... Et alors là, ça touche surtout dans les grandes villes, à Casa, à Rabat, à une forme de spiritualisme. Alors que dans les campagnes, c'est des gens qui peuvent être illettrés, ultra-réactionnaires. Et vous avez la notion charismatiste, c'est-à-dire avec l'effervescence collective. Et là, justement, vraiment dans les campagnes, chez les gens qui sont les plus pauvres, etc. Dans un même mouvement. Et là, je vois un mouvement où c'est assez équilibré dans les trois et qui joue sur tous les tableaux.
Cette confrérie, c'est pour ça que j'évoque.
Mais ensuite, les différentes religions, suivant leur position, leur histoire et leur place dans le monde, il y a un dosage différent. Le Moyen-Orient, c'est l'endroit où, historiquement, il y a eu le plus de fondamentalisme. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Orient, j'en ai pas parlé, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle le complexe de Suez. Sur la question du déclin, qu'est-ce que c'est que le déclin,
etc. Suez, c'est comme le canal.
Oui, comme le canal de Suez. Et c'est lié au canal de Suez. C'est lié à 56. Mon livre de complexe de Suez, où je critique les définitions de Finkielkraut, de Zemmour, etc., pour montrer qu'ils sont l'expression du déclin qu'ils dénoncent, et même, dans un sens, leur discours en est en partie la cause. En montrant comment fonctionne le déclin, comment ça fonctionne dans l'Empire romain, comment ça fonctionne aujourd'hui. Mais ce que je voulais répondre là sur ce sujet, c'est que au moment où il y a eu ce processus de l'occidentalisation, que j'ai pas eu le temps de décrire, j'ai un chapitre entier sur cette question dans le gain de civilisation dans la banlieue, le rouleau compresseur de l'occidentalisation, les premières sociétés qui ont été touchées sont les sociétés du Moyen-Orient. Parce qu'elles étaient en face. Et pour la première fois dans l'histoire, il n'y avait plus d'équilibre, et surtout dans une zone où il y avait un équilibre relatif, instable, mais relatif, entre le monde dit chrétien et le monde dit musulman, en parlant vaguement. Et cet équilibre a été brisé au point qu'il y a eu un sentiment d'humiliation en face, mais un sentiment d'humiliation sans partage, c'est-à-dire que pour un certain nombre de raisons qu'il faut, je n'ai pas le temps d'expliquer, qui sont liées à la rationalisation du travail dans les grands monastères chrétiens qui ont défriché l'Europe, qui ont construit les conditions d'une agriculture plus d'une industrie, en face, il n'y avait plus de résistance. C'est-à-dire que ce n'était plus un rapport de guerre terme à terme, on pouvait gagner ou on perd. C'est-à-dire que tout était perdu sans aucun espoir de gagner quoi que ce soit. Donc il n'y avait plus de rapport de force. C'est ce rapport de force que j'appelle moi colonisation symbolique, qui est beaucoup plus fort. Donc il va créer un complexe extrêmement fort, et ce complexe va créer une réaction fondamentaliste. C'est-à-dire qu'il y a deux types de réactions possibles, ça c'est Olivier Roy qui l'a assez bien expliqué, il y a deux types de réactions possibles. Il y a la réaction qui consiste à dire, dans les deux cas on dit on est nul, parce qu'on se fait écraser, on ne peut rien faire. Donc dans le premier cas on dit on est nul parce qu'on n'est pas rationnel, donc on va se re-rationaliser, c'est le kémalisme. On va laïciser, on va essayer de ressembler à ça. Puis il y a le deuxième cas, on est nul parce qu'en fait, si on se prend ça en pleine figure, c'est le jugement de Dieu, parce qu'on n'a pas été assez rigoureux avec nos principes. Et c'est le début du néo-fondamentalisme, c'est-à-dire du fondamentalisme très spécifique qui est lié à l'occidentalisation et qui va se traduire par un occidentalisme, c'est-à-dire par une obsession de l'Occident. Et qui est ce néo-fondamentalisme particulier. C'est pour ça que tous les fondamentalismes ne sont pas liés à l'islamisme, c'est-à-dire à une doctrine politique, mais dans le cadre de l'islam, pour des raisons historiques, le fondamentalisme est directement lié à l'islamisme. Or, moi, dans mes recherches, ce que j'ai montré, c'est que depuis le début des années 2000, l'islamisme est en train de se séparer du fondamentalisme, et c'est ce qui n'a pas été perçu, puisque les nouveaux djihadistes, ils sont fondamentalistes, sans même passer par le djihadisme, mais avec une nouvelle articulation, un nouveau rapport. Et il y a des salafistes qui sont ultra-fondamentalistes, qui ne sont plus du tout islamistes, alors qu'on pense que c'est la première étape vers la politisation. Et vous avez des gens qui sont influencés par Internet et qui vont construire une mythologie, un désir d'être qui n'a rien à voir à la base avec l'islam, mais comme l'islam est mis en scène comme étant l'ennemi et qu'eux veulent être des anti-héros et des ennemis, ils vont se lancer dans ce processus-là. D'autant plus qu'on va les reléguer à leurs racines soi-disant musulmanes, dont ils vont ensuite profiter pour construire quelque chose de stable avec en complément le discours de Dar al-Islam, c'est-à-dire de Daesh.
Schématiser ces distinctions entre Al-Qaïda et Daesh, directement voilà. Fondamentalisé chez Daesh, au lieu de passer par la case religion, islam.
Et puis tous les aspects idéologiques, etc. Mais en tout cas, le fondamentalisme, c'est pour ça qu'il est très présent dans cette zone, du point de vue géographique, Mais dès qu'il y a des questions identitaires qui se mettent en place, c'est-à-dire des questions d'humiliation, de remise en cause du discours national, de la narration nationale, de la narration individuelle, immédiatement, il y a des retranchements fondamentalistes. Ça peut être individuel, c'est le cas aux États-Unis où c'est individuel, des gens qui se sentent dépassés, qui deviennent fondamentalistes. Mais c'est plus individuel parce que l'ensemble de la collectivité n'est pas comme un seul homme dans cette phase. Et puis ensuite, le charismatique, c'est surtout en Afrique, en Amérique latine, et dans certaines parties du monde. Mais comme il y a des mélanges, en Australie, il y a des mouvements qui sont un mélange de charismatisme et de spiritualisme, dans des mouvements chrétiens qui sont comme ça, qui sont très au développement personnel, hein, et en même temps avec l'aspect, et ça c'est les classes moyennes, avec l'aspect charismatiste, ou des effervescences collectives et l'idée des bienfaits immédiats, etc. Par exemple, il y a un groupe en Australie où leur slogan essentiel c'est shopping to be saved, quelque chose comme ça. Oui, pour être sauvé, c'est-à-dire acheter, il faut toujours avoir une belle apparence, enfin, il est recommandé dans ce milieu chrétien, fondamentalisme, charismatisme, en fait, spiritualiste, c'est-à-dire tout ce mélange, d'avoir l'air tout le temps heureux et bien pour le bonheur d'autrui, parce que ça c'est. Et donc de se faire opérer quand on vit. Vraiment, vous avez vraiment ça, il y a une chercheuse qui s'appelle Marion Maddox, que j'avais invitée, qui est une chercheuse spécialiste du religieux, qui a travaillé là-dessus.
C'est la dictature du développement personnel.
Voilà. Bon, bravo. Merci à vous.